Les agités du mois, une compilation non exhaustive des feuilletons diffusés dans les agités du local du mois.
Nouvelle semaine, nouvelle série, on découvre aujourd'hui Le Sourire qui Régale. C'est un food truck ouvert depuis le 1er septembre dernier à Laval. Sa particularité, les employés sont des personnes en situation de handicap. Geoffroy, responsable du projet, revient sur son origine.
La restauration parce que c'est un domaine qui est très valorisant, notamment grâce aux émissions de télé qu'on voit fleurir un peu partout. Et puis à l'attention que les gens portent à ce qu'ils mettent dans leur assiette. La particularité du handicap, c'est qu'il faut faire attention, notamment dans l'emploi et dans tout ce qu'on fait avec les personnes en situation de handicap, à ce que les choses soient valorisantes. C'est super important pour eux, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont une valeur véritable à apporter. Voilà pourquoi la restauration. Et pourquoi le food truck ? Parce que dans la restauration, dans le domaine de la restauration, le food truck est une petite entité facile, entre guillemets, hein, facile à monter dans le sens de l'investissement. Ça représente environ 10 fois moins d'investissement qu'un restaurant traditionnel. Nous avons embauché donc 3 personnes, dont 2 en situation de handicap, autisme et trisomie. Et on voulait faire bénéficier de cette mission à des personnes reconnues handicapées, mais qui sont plus éloignées aujourd'hui de l'emploi que celles qu'on accueille habituellement. Et pourquoi ces personnes autisme et trisomie ? Parce que ce sont déjà des handicaps qui sont assez éloignés de l'emploi, et puis aussi des handicaps un peu qui cachent la personne réelle qui se trouve derrière. Donc, si vous voulez, la personne trisomique, par exemple, est une personne qui, par son handicap, va avoir une vraie facilité, on va dire, à entrer en relation avec les gens. Entrer en relation dans le domaine de la restauration, on vous dira que c'est quand même une des choses essentielles, notamment dans la relation avec le client. Et pourquoi une personne autiste ? Parce que donc aussi, voilà, l'autisme est une véritable question publique, parce que c'est des handicaps qu'on méconnaît, qui ont un spectre qui est très très large, qui coupe beaucoup du monde du travail, alors que en fait ce handicap influe un peu, hein, influe beaucoup même sur le caractère de la personne et surtout sur sa capacité à être rigoureuse, méticuleuse, dans des tâches assez fines en fait. Et là, pareil, dans le monde de la restauration, notamment vraiment en cuisine, ce sont des qualités dont on a vraiment besoin. Quand on suit une recette, il ne s'agit pas d'inventer, il faut vraiment suivre scrupuleusement la recette à la lettre. Il faut être aussi très méticuleux sur les règles d'hygiène et de sécurité. Le choix, on va dire, de ces personnes est tout indiqué.
Demain, je serai loin. J'aurai quitté la ville et pris la clé des champs. Demain, je serai pile où l'on ne m'attend pas. J'aurai quitté la ville.
Après avoir évoqué l'origine du projet hier, zoom sur la cuisine qui est servie par le food truck avec Geoffroy, le responsable du projet.
Notre vraie plus-value, c'est la vente. Donc tout le reste, ça a été des jeux de mise en situation, plus que de la cuisine qui aujourd'hui, en fait, n'est pas la majeure partie de notre travail puisque on sous-traite une partie de cette cuisine à un partenaire qui demain, à partir de 2021, bah, petit à petit nous donner les rênes de la cuisine, nous permettre de se former, mais doucement et tranquillement. En fait, on a rencontré le traiteur Poivre et Sel. En fait, notre projet a tout de suite fait écho à sa propre façon de travailler et à son désir, quelque part, de s'investir aussi auprès du handicap, avec des valeurs qui sont aussi les nôtres, à savoir travailler des produits qui sont d'abord des produits locaux, voilà, avec des circuits courts. Ensuite, travailler des produits qui sont issus de l'agriculture raisonnée, des produits qui sont faits maison surtout, voilà, en respectant évidemment une saisonnalité. Et petit à petit, l'équipe en place commence à aborder la cuisine. On a commencé il y a très peu de temps à faire des crêpes, par exemple. Ce qu'on peut trouver aujourd'hui au menu du Sourire qui régale, c'est une base de tarte salée pour le plat. Cette tarte salée est servie avec une salade verte. Et puis en entrée, on propose une salade composée en été. Et puis en dessert, des desserts un peu pâtissiers, type du flan, où on peut avoir des délices aux framboises, des panna cotta. Voilà, on propose ce type de menu. La particularité, c'est qu'on fait tout ça sur un choix très resserré, ce qui permet d'avoir de la qualité. Et puis en même temps, ça permet aussi pour nos équipiers en situation de handicap d'être en capacité à la fois de proposer le menu, de prendre la commande, et en même temps, derrière, de préparer ses commandes sans se tromper. Spécifiquement sur ce projet-là, la grosse difficulté, c'est de se faire connaître, d'arriver à trouver des emplacements, parce que même si on a l'impression de pouvoir se mettre un petit peu partout, en fait, c'est très réglementé. Et puis, un emplacement que vous obtenez par la mairie, même un emplacement très central, n'est pas du tout le gage d'avoir plein de clients. Aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les emplacements qui sont l'objet en fait, d'un partenariat avec une entreprise. Donc, on se met sur le parking, sur un parking privé d'entreprise. Après, je vais dire autre chose par rapport aux difficultés. Moi, je m'attendais à voir des difficultés arriver dans le quotidien, finalement, de l'équipe du camion. Et non pas qu'il n'y ait pas de petites difficultés, mais je suis extrêmement surpris de la qualité de leur travail.
Demain, je serai loin. Bien malin qui saura de quel vent.
Début de semaine, on embarque à bord du food truck Le Sourire qui Régale. Lancé depuis le 1er septembre dernier, il sert chaque jour entre 30 et 40 couverts. Sa particularité, ce sont des personnes en situation de handicap qui vous servent. Et parmi elles, Sylvain, 22 ans, il est autiste et c'est sa première expérience en restauration.
Ouais, bah, y a quelques règles à respecter, bien sûr, mais sinon, voilà, ça, bah, j'ai assimilé plutôt vite, donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mon rôle dans l'équipe, c'est quand moi je reçois les commandes et je fais tout ce qui est préparation. Donc je prends la nourriture, j'emballe. Puis après je passe à un collègue qui s'occupe de la caisse après. Faire vite et bien, pas oublier, pas aller trop vite non plus, parce que ça on oublie des choses. Puis sinon voilà, faire attention quand même aux règles d'hygiène, porter les gants, ça. Le masque important aussi. Bah on se connaissait pas, puis on a appris à se connaître parce que avant la première sortie qu'on avait faite le 1er septembre, on a eu 2 semaines de formation. On a été formé avec le camion, différentes règles d'hygiène, tout ça. On a fait quelques formations de différents postes aussi. Oui, parce que pendant les 2 semaines de formation avant la première sortie, on a été briefé sur les postes des équipiers. Donc ce qui fait qu'en cas d'absence ou de problème, on pourrait endosser le rôle de l'autre, enfin d'un équipier. Il y a Aurélie qui est à l'accueil, donc il va s'occuper de toute la partie de l'accueil des clients, et Hubert qui s'occupe lui de l'encaissement puis du règlement des commandes. C'est mon premier travail rémunéré, donc j'avais pas d'activité professionnelle avant. Bah oui, je suis plutôt satisfait parce que déjà c'est quelque chose qui va durer parce que pour l'instant je suis embauché en CDI, donc tous les trois on est embauché en CDI, donc c'est plutôt pas mal. Pour un premier boulot, moi ça me va. J'avais un projet professionnel qui était en cours, mais à cause de la crise sanitaire, bon, ça a pris du retard. Je voulais m'orienter vers la menuiserie. Du coup, bah, ma conseillère à Job Coach, donc, qui est une accompagnatrice pour les personnes en situation de handicap dans le milieu du travail, elle m'a parlé de ce projet qui se faisait, donc c'était mi-juillet quand on a parlé. Et donc, je lui ai dit, bah, comme mon projet était en arrêt, entre guillemets, je lui ai dit que j'étais plutôt intéressé, puis après j'étais orienté vers ça, puis ça s'est fait tout seul. Oui, même si c'est pas mon projet professionnel de base, je me suis dit qu'il fallait bien commencer quelque part, et puis c'était une opportunité, donc je l'ai saisi.
Demain, vous entendrez le témoignage d'Aurélie qui vous accueille en tout premier lieu au Sourire qui régale. La première personne que vous rencontrerez au food truck, c'est Aurélie, puisque c'est elle qui prend les commandes. Elle nous explique.
Alors, voici le menu. Il y a trois formules. Entrée plat, plat dessert et entrée plat dessert. Vous choisissez et moi je marque le pot de commande pour vous. Sur un petit carton, oui, c'est ça. Je entoure le plat pour la cliente qui veut toi. Pareil pour le dessert. En fait, je donne le numéro de la commande au client. Je dis c'est sur place ou emporté. Après, quand c'est fini, je donne à Sylvain. Très, très bien. Oui. J'aime beaucoup parler avec les gens. Au début, j'étais un petit peu timide. Ça, c'est sûr. Mais après, maintenant, très, très bien. Vraiment, je n'ai pas eu de difficultés. Mais moi, c'est un petit peu, comment dire, différent parce qu'en fait, ce projet que je travaille aujourd'hui ici, j'avais ma éducatrice à Chopecouche. Elle m'a dit tout de suite que ça va vraiment te plaire, Aurélie. J'ai jamais connu ça avant que je travaillais ici, bien sûr. Et là, je peux dire que ça permet de changer de travail. Parce qu'avant, j'ai travaillé en milieu ordinaire, au groupe Pronucia. Sauf que j'étais licenciée pour la première fois. Quand j'ai appris que j'étais licenciée, j'étais pas très bien. J'étais un petit peu déçue, mais quand même, j'ai eu quand même la chance d'avoir tes parents et ma tutatrice qui m'a dit « Tu t'inquiètes pas, tu vas quand même trouver quelque chose. » Et c'est grâce à Chopecouche que j'ai trouvé ce emploi-là. Je me sentais vraiment contente de trouver un travail parce que c'est pas évident de trouver un travail comme ça. Avant, quand je travaillais au groupe Onusia, j'étais pas la seule à être licenciée. Il y avait plein de monde et trop du bien. Ah oui, j'avais vraiment besoin parce que j'arrêtais pas de dire à mes parents, j'espère que je vais trouver parce que j'arrêtais pas de dire ça. Et puis, et pour finir, quand ma tutrice m'a dit que ça va beaucoup te plaire, enfin, j'étais contente. J'ai envie que ça continue, oui.
Et demain, vous entendrez le témoignage d'un autre de leurs collègues, Hubert, c'est lui qui chapeaute l'équipe.
Demain, je serai loin. J'aurais quitté la ville et fait sauter les ponts. Là-bas, tout est tranquille. Bien malin qui saura qui je suis, d'où je viens. Demain, je serai loin. Moi qui m'étais perdu, je me retrouverai.
Et aujourd'hui, on va en écouter le témoignage d'Hubert qui se définit lui-même donc comme le capitaine du food truck. Hubert qu'on va entendre d'ici quelques secondes, c'est parti.
C'est mon premier travail où je travaille avec des personnes en situation de handicap. Donc j'appréhendais un peu ce côté et ils me le rendent au centuple par du bonheur qu'on constate en fait tous les jours. Donc je regrette pas du tout. Même si au départ ils avaient un peu de timidité, je dirais. Mais en fait, au fur et à mesure, donc on apprend à se connaître aussi, hein, ça va dans les deux sens. Le mur de glace se brise et finalement, on apprend de mieux en mieux à se connaître. Et en apprenant à mieux se connaître, ça nous permet aussi de mieux s'épanouir dans sa place. Moi, ça me permet aussi de leur confier de plus en plus de missions. Plus ils ont aussi de missions, ils ont de quoi s'occuper, plus ils s'épanouissent. Et une chose qui est très satisfaisante pour moi, c'est que tous les jours, que ce soit Aurélie ou Sylvain, ils me demandent chaque jour de plus en plus de travail. Donc ça veut dire que chaque jour, je peux leur confier de plus en plus de missions. C'est une des parties qui, moi, chaque jour me donne le sourire. Aurélie, le premier jour, je lui demandais juste donc de présenter le menu et d'entourer pour le client. Aujourd'hui, Aurélie discute avec le client. Elle ne fait pas seulement juste remplir la plaquette comme une machine. C'est bien plus que ça. Elle discute avec le client. Parfois, quand il y a des clients qui sont proches du camion et d'autres qui sont un peu plus loin, elle va vers tous les clients. Elle n'en laisse aucun de côté. Elle discute avec le client. Elle aime ça. Elle aime cette partie-là où ça lui donne le sourire. Donc Sylvain, quand je l'ai briefé sur son poste, c'était juste de prendre un emballage et remplir en fonction de la commande. Aujourd'hui, il est capable non seulement de remplir tout l'emballage, donc avec les différents menus, tout ça, mais il est aussi capable de gérer toute sa place au sein de la cuisine. Ça veut dire qu'il va gérer les quantités à mettre pour les salades, pour les entrées. Il va être capable de gérer son stock de couverts pour tout le camion. Il va être capable de gérer la logistique en fait, des couverts et des ustensiles de cuisine. Il va être capable de gérer la logistique de la cuisson aussi, où en gros on a certains horaires où on doit respecter certaines cuissons pour ne pas faire cuire en fait, trop fort les tartes. Et tout ça, il va être capable, il s'est vraiment très bien épanoui en fait, dans son rôle. Et je dirais, il ne fait pas juste de la mise en emballage. Il fait vraiment tout ce qui est cuisine. Enfin, ils ne sont pas juste heureux d'être là, ils sont vraiment épanouis. Et tous les jours, ils ont envie d'apprendre encore plus de choses. Et c'est ça qui me porte un peu aussi et qui me pousse à encore plus donner de l'énergie dans ce projet.
Là-bas, je t'écrirai. Je parlerai de toi demain.
Vous êtes une nécessité pour nous. Si on n'a pas le contact avec les auditeurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Merci.
Autre radio.
It's a blue world without you. It's a
Avec un nouveau feuilleton, cette semaine, on s'intéresse à un stage de codage informatique exclusivement pour les filles. Ça s'appelle Girls Are Coding. Il avait lieu la semaine dernière à l'IUT de Laval avec une vingtaine d'adolescentes de la 4e à la 1ère. Un stage passé entre les gouttes du confinement et au programme pendant ces 4 jours. Réalisation d'un site web de A à Z, robotique ou encore codage d'un jeu vidéo, le tout accompagné de professionnels. Mathieu Gesta est chargé de mission formation au RFI Atlantique 2020, un programme régional sur le numérique, organisateur de ce stage.
L'origine du projet est de vraiment pallier au déficit de personnes qu'on a dans les filières numériques. On a 10% de femmes dans le numérique et c'est un scandale. Donc il faut détruire et vraiment combattre la figure du geek qui fait que les jeunes filles se disent « c'est pas pour moi ». Et ça, c'est vraiment l'angle d'attaque, c'est de se dire « voilà, on va faire un stage dédié aux jeunes filles pour qu'elles puissent se dire « c'est pour moi et je vais y aller dans ces filières ». Donc peut-être que dans ces stages, elles vont juste comprendre la logique informatique, elles vont pas forcément être recrutées par la suite, mais au moins elles vont pouvoir être des ambassadrices de la pensée informatique et de dire que l'informatique, c'est pas... que pour les hommes. On a deux types de publics. En gros, on a des jeunes filles qui sont déjà très motivées et qui ont déjà une expérience un peu de codage à différents niveaux. Et on a d'autres qui sont beaucoup plus dans une approche de découverte. Et donc ils viennent voir ce que c'est un peu le numérique, parce que c'est extrêmement large. Ça peut être de la robotique, comme on a fait cette semaine, ou à certains langages informatiques. Ça peut être de la création visuelle, ça peut être de poser des câbles le long des routes pour connecter des réseaux. C'est très très large en fait comme domaine. C'est extrêmement en fait ludique d'apprendre le langage informatique, puisque dès qu'on a une petite difficulté, une virgule qui est mal placée, un slash qui est dans le mauvais sens, ça va pas marcher. Et en fait, on va très vite arriver à surmonter cette difficulté. Et donc, ça fonctionne, un apprentissage qui fonctionne comme ça, avec petite difficulté, victoire, petite difficulté, victoire. Et ça, c'est extrêmement agréable, et ça rend vraiment l'apprentissage et la découverte du langage informatique extrêmement agréable. Plus on en retrouvera en filière, plus on sera content, puisque la filière informatique souffre vraiment de n'avoir que 10% de femmes. Elle se prive de la moitié des cerveaux de la population. C'est pas du tout bon. Dans la partie conception des objets numériques, d'une part, et dans la partie travail en équipe aussi, c'est extrêmement important de diversifier les profils et diversifier les approches pour sortir un peu du modèle viril et viriliste qu'on peut rencontrer dans les milieux trop fermés. Alors je dis pas que dans le numérique c'est comme ça partout, mais il faut quand même ouvrir, et c'est vraiment important pour les productions d'objets numériques, mais aussi pour la façon dont on les construit au sein des équipes. Là, on a beaucoup d'intervenantes qui sont venues, enfin, on a deux des intervenantes de cette semaine qui sont passées par l'IUT de Laval. Donc c'est aussi très intéressant de voir ce qu'elles sont devenues professionnellement, d'avoir aussi une proximité avec les stagiaires. Effectivement, la question de l'orientation se joue à ce moment-là, en fait. On se dit que c'est aussi à ce moment-là qu'il faut développer les appétences pour ces thématiques-là et attaquer encore une fois la figure du geek et le stéréotype qui se véhicule autour de cette figure caricaturale, en attaquant cette figure au niveau des jeunes filles et des parents. C'est vrai que les deux vont de pair. Parce que c'est pas parce qu'on a là une quarantaine, cinquantaine d'années qu'on n'est pas soumis au stéréotype, en fait. Il faut arriver à déconstruire ce stéréotype du geek.
Et c'est la grande mission de cette semaine de stage. Demain, vous entendrez l'une des participantes déjà très investie.
Mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep.
Une initiation pendant 4 jours à l'IUT de Laval, proposée à une vingtaine de jeunes filles, de la 4e à la 1ère. Nous les avons rencontrées à la fin du stage. Entre robotique, codage pur et création d'un jeu vidéo, chacune a sa préférence. Et aussi ses connaissances initiales, pour Marie, c'était la totale découverte.
Bah, je connaissais pas trop le codage, j'avais vraiment envie de découvrir. Et j'avais aussi envie de découvrir les métiers de l'informatique. Bah, j'ai trouvé ça vraiment super. On a fait beaucoup d'ateliers sur différents thèmes. Par exemple, mercredi, on a fait la robotique. Et lundi et mardi, on a créé notre propre site web. Et franchement, c'était génial. Moi, j'ai fait un site web sur l'équitation. Et on a appris à coder dans le langage HTML et CSS. Et voilà, et je connaissais pas, donc j'ai pu découvrir et c'est vraiment chouette. Et sinon, bah, en seconde, on fait un peu de codage et ça peut toujours servir. On a fait de la robotique et il y a des filles de l'équipe de France, donc de Cran, de RoboRave, qui sont venues nous faire plein de petits ateliers avec les M-Bots. Donc on a appris à programmer sur M-Block et on a pu faire plein de parcours avec nos petits robots. Il faut juste être vraiment précise sur les informations qu'on veut donner au robot et travailler en équipe. Le moment que j'ai préféré, bah, je pense que ça reste le codage. Parce que j'aimais bien le fait de pouvoir créer vraiment notre site, mettre nos images, écrire ce qu'on veut. J'étais pas partie dans le domaine de l'informatique et je sais pas trop encore ce que je veux faire, mais pourquoi pas, c'est une bonne expérience pour m'orienter après. Je pense que ça va être le métier de game designer. On a eu une visio avec lui par Skype et ça m'a vraiment plu le fait de pouvoir créer des graphismes. Donc là, c'était l'univers des jeux vidéo, mais ça m'a plu. Bah, il nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait, comment faire un jeu vidéo, etc.
Les rencontres avec les professionnels sont toujours au cœur du stage. Objectif affiché, déconstruire les clichés du geek garçon à lunettes qui code. Être uniquement entre filles n'a d'ailleurs pas déplu à Violette.
C'est mieux parce que souvent les garçons ils disent « Oh, tu sais pas utiliser ça, tu sais pas utiliser ça » et maintenant on peut leur prouver que bah, si, les filles ça peut très bien faire ça J'étais curieuse de savoir comment c'était, les sites, etc. C'était super bien, on a fait plein de trucs, on a appris, on a vu l'envers des sites, des jeux. Moi, ce que j'adore, c'est faire les sites, je trouve ça trop bien. Bah, parce que je pouvais quand même sortir ma passion, parce que j'adore la gym, et je pouvais quand même, comme là je peux pas en faire, pouvoir quand même un peu m'exprimer avec, et donc ça me plaisait. Maintenant, quand j'irai sur un site, je sais ce que c'est, et... Au début, quand on voit, on dirait que c'est facile. Et puis finalement, on a mis 2 jours à faire un tout petit site.
Des petits sites peut-être, mais très aboutis. Ils ont impressionné les organisateurs du stage. Demain, on parle langage HTML et bouton de commande pour un personnage de jeu vidéo. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix. Une vingtaine de jeunes filles, de la 4e à la 1ère, ont découvert ou approfondi leurs connaissances en robotique, programmation de jeux vidéo ou codage. Et d'ailleurs, moi j'en ai profité pour prendre un petit cours accéléré avec Oriane pour faire sa propre page web.
Faut bien comprendre les bases et comment ça fonctionne. En fait, c'est beaucoup, c'est des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Tu vas faire d'abord la grande boîte où c'est le body, c'est-à-dire le corps, tout ce qu'on va voir. Ensuite, dedans, tu vas mettre, tu auras un groupe, ce sera l'introduction. Un groupe, ce sera le texte. Ensuite, tu mettras dans l'intro, tu auras 2 petits textes. C'est beaucoup des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes. Ensuite, du coup, tu as quelque chose comme ça. Et pour que ça apparaisse beau, il faut que tu fasses un autre dossier CSS. Le dossier CSS, qui est ce qui va mettre tout beau, parce que quand tu as juste ça, en fait, ce qui va apparaître, c'est des écritures noires à la ligne, les unes en dessous des autres. Donc, c'est pas génial. Et le CSS, ça va te permettre, du coup, là, je mets body, c'est-à-dire c'est tout le corps, tout ce qui va apparaître à l'écran. Je veux que tout soit en Arial et en noir. Et ensuite, je mettrai le haut de mon site, later, je veux que ce soit centré, je veux que ce soit comme ça. Et ensuite, du coup, toutes mes sous-parties, par exemple, là, mes petites sous-parties, ma sous-partie box, ce sera codé par un truc précis. En début de semaine, on a donné des feuilles, enfin, une sorte de lexique HTML de base. Par exemple, là, on voit qu'il y a beaucoup de H1, H2. En gros, c'est des titres. H1, ce sera un gros titre. H2, ce sera un titre un peu plus petit. H3, ce sera un titre encore un peu plus petit, etc. P, c'est les paragraphes. On avait comme ça un lexique de mots de base. On avait aussi beaucoup d'intervenants et les professeurs qui venaient nous aider quand on ne comprenait pas. Donc c'était bien. Mais par exemple, si tu as juste mal mis quelque chose, par exemple la marge, si tu as mal écrit la marge, et ben ton site il va se retrouver tout collé, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, c'est juste une ligne qui n'est pas bonne. Et du coup, ça peut tout enlever. Ouais, on avait 2 jours où on était vraiment à fond HTML. Mais après, on pouvait faire des pauses, donc ça dépend des gens. Une fois que tu as posé les bases, ça va vite, parce que tu peux faire des copier-coller, tu peux recommencer, etc. Mais c'est les bases qui sont assez longues, parce qu'il faut tout mettre en place pour que le reste fonctionne bien. On est parti de ça. Il n'y avait rien du tout. On est parti de rien. J'en avais déjà fait avant, donc ça a été plutôt assez simple. Mais je sais que la première fois que j'en ai fait, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Quand tu commences par une page blanche et que tu vois qu'il faut noter une ligne pour ça, une ligne pour ça, une ligne pour ça, qu'il y a tous les mots différents, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver. Ça paraît assez insurmontable au début. Mais j'aime bien ça, donc ça me dérangerait pas d'en refaire. Après, je sais pas si je veux forcément en faire dans le milieu professionnel. Vu qu'on a eu pas mal d'interventions avec des professionnels vraiment du code, des personnes professionnelles qui faisaient vraiment des sites, des personnes qui faisaient réellement des jeux vidéo, du coup, ça permettait... En plus de le faire nous-mêmes, ça permettait de voir où est-ce que ça pouvait nous amener plus concrètement.
Et notre série se poursuit demain avec un autre témoignage d'une stagiaire. Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil trying to call your line, shit I always shine. Even when it light them. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my.
my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. Let it go, but I never go with.
Liz Marie ne savait pas vraiment ce qui l'attendait avant de venir. Résultat, elle est conquise.
Alors, je trouvais ça vraiment cool de pouvoir faire un stage entre filles. Bon, faut savoir, c'est pas du tout ce que je veux faire à l'informatique, mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. Alors, j'ai appris à créer un site, j'ai appris que derrière un site, il y avait plein de codes à rentrer pour justement créer un site. J'ai appris aussi qu'aujourd'hui, nous faisons un jeu vidéo, on le crée et tout, c'est trop stylé. Et hier, c'était ma journée préférée car on a fait de la robotique. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'on faisait du programme et le robot l'interprétait et c'était vraiment stylé. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça, mais ouais, c'était très dur, mais c'était super cool. Alors, je retiendrai que l'informatique, c'est vraiment ouvert à tout le monde et pas que aux garçons. Par la suite, je serai plus forte en techno, ça c'est sûr, mais je pense pas que j'en ferai mon métier non plus parce qu'il faut vraiment être concentré tout le temps et... c'est pas ce que je préfère non plus. Je changerais totalement de manière de penser en techno. D'habitude, quand je rentrais en cours, je disais oh, non, pas la techno. Mais là, franchement, ça me plaît bien, mais pas ma matière préférée non plus. On comprend mieux, on approfondit vraiment les choses qu'on fait ici, alors qu'au collège, on les approfondit, mais ça reste vague. Alors que là, je sais réellement ce que c'est un derrière d'un site, un arrière d'une programmation de robot, enfin...
Pourtant, Liz Marie n'envisage pas de choisir cette orientation. Dommage, car il y a des débouchés, souligne Mathieu Gesta. Il est chargé de mission formation au RFI Atlantique 2020, l'organisateur du stage.
Les codeurs informatiques choisissent leur employeur. C'est vraiment un métier qui recrute énormément. Donc, le codage informatique recrute, recherche à recruter différents profils, donc notamment des profils de femmes. Et donc c'est une filière qui est vraiment porteuse, donc j'invite vraiment toutes les personnes qui cherchent à s'orienter à envisager cette possibilité. Pourquoi pas codeuse ? C'est vraiment un super sujet, c'est vraiment une carrière qui peut s'ouvrir. Grande possibilité d'emploi, une mobilité nationale, internationale aussi. Il faut aussi pouvoir parler anglais, s'adapter au sein des équipes. C'est aussi différents rôles qu'on peut prendre dans les équipes. Il peut y avoir du codage pur, mais il peut y avoir aussi de la gestion de projet, il peut y avoir de la relation client, il peut y avoir beaucoup d'aspects assez stimulants en fait dans ces métiers, puisqu'il n'y a pas qu'un métier dans le codage pur, puisqu'en plus, déjà, il y a différents langages. Mais en plus, il y a d'autres relations au public, relations à l'équipe, relations aux produits, relations aux projets, des contextes dans lesquels on peut s'inscrire. On peut s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire aussi, qui peut être un secteur intéressant d'un point de vue informatique. Donc il y a des belles perspectives de carrière, notamment par les temps de Covid qui courent.
Et demain, pour le dernier épisode, nous entendrons l'un des intervenants, prof à l'IUT, qui regrette le manque de féminisation de la profession.
Crazy, might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with.
Dernier jour de stage au milieu des lignes de code et de commandes numériques. Le stage Girls in Coding était organisé pour la toute première fois à Laval, à l'IUT, par le centre de formation RFI Atlantique 2020, le centre de culture scientifique du Zoom et justement l'IUT de Laval. Vincent Barré y est enseignant-chercheur en informatique. Il a accompagné les jeunes stagiaires féminines pendant toute la semaine et y voit un intérêt pour leur choix futur d'orientation.
Nous sommes... intéressé au premier plan parce que nous avons deux formations sur quatre à l'IUT qui sont des formations dans le domaine du numérique et pour lesquelles on voit bien que la mixité est loin d'être atteinte hein, puisqu'on n'est pas sur des proportions de 50-50 dans nos formations. En informatique, on est même à moins de 10% de jeunes filles qui rentrent dans les formations. On est entre 8 et 10%, et donc il y a quelque chose à faire. Ce qui est important aussi quand même de mentionner, c'est que si on a des taux qui sont faibles, c'est pas parce que on ne souhaite pas avoir accueillir de jeunes filles ou qu'on sélectionne majoritairement des jeunes garçons. Ce taux de 8-10%, c'est aussi le taux de candidates parmi nos candidats. Donc il n'y a pas de mystère. Si à l'entrée, il y a 8% de candidates, ensuite, il y a à peu près autant de personnes qui sont dans la formation. Il n'y a pas de réelle raison scientifiques, techniques ou autres qui font qu'un garçon réussira mieux dans les études du numérique qu'une jeune fille. Il n'y a pas de raison objective de ce côté-là. Par contre, il y a clairement beaucoup moins de candidates que de candidats, ce qui est probablement dû quand même à des, à la fois des freins culturels, parce qu'il y a peut-être l'image de la personne qui travaille dans le domaine du numérique qui renvoie plus à quelque chose qui parle sans doute à des garçons qu'à des filles. Les études et la profession derrière sont quand même fortement masculines. C'est pas simple de s'y projeter, c'est pas simple de s'y imaginer. C'est sans doute pas simple non plus d'y vivre au quotidien en permanence. On a cherché à faire en sorte qu'il y ait une double entrée qui permette de se projeter plus facilement, à la fois en ayant un certain nombre de professionnels femmes du numérique qui permettent de se projeter en se rendant compte qu'il y a des femmes dans le domaine du numérique qui s'y impliquent, qui s'y épanouissent, qui font des choses super intéressantes. Et puis on avait aussi pris le biais de faire en sorte que ces jeunes femmes, et puis quelques hommes également qui ont témoigné, soient issus de l'IUT. Donner à voir qu'un parcours, en tant que Mayennais, un parcours local, permet aussi de s'y insérer. Ce n'est pas uniquement des écoles inatteignables à l'autre bout de la planète qui permettent de faire ça avec des gens qui ont des parcours exceptionnels. Et c'est aussi pour ça que ce stage se fait en amont de ces choix, puisque on accueille plutôt 4e, 3e seconde, donc à un moment où on est en phase de réflexion sur ce que l'on pourrait faire, donc, le numérique pourquoi pas, et puis on cherche à affiner un petit peu son parcours si on a déjà une petite idée de faire dans le numérique, parce que comme c'est très vaste, il faut quand même se pencher vers tel ou tel domaine.
Vous êtes toujours sur l'autre radio.
Moi, j'adore écouter Manu Dibango, quoi. Ça fout la patate, je trouve.
Il avait le sourire aux lèvres, il était toujours en train de rire. C'était un super artiste. Il était, puisqu'il est décédé, si je ne m'abuse.
Pas sûr.
Si,
ah ouais
si.
Ah merde.
Il n'y a que sur l'autre radio qu'on entend des trucs comme ça.
Toute cette semaine dans un FJT mayennais, un foyer de jeunes travailleurs qui s'adapte au confinement et aux nouvelles conditions sanitaires.
Et oui, c'est parti à la rencontre des résidents et ceux qui font fonctionner la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval. Cette résidence, comme les deux autres de la ville, accueille des jeunes entre 16 et 30 ans en premier emploi ou étudiants. Elle propose des logements, mais aussi bien plus que ça. C'est ce que nous expliquent aujourd'hui les deux animateurs, Mustapha et Alexandra, tous deux présents depuis plus de 10 ans et surtout présents pendant le premier et deuxième confinement. Ils nous expliquent comment ils s'organisent.
Donc nous, on a 86 logements, donc ça veut dire potentiellement 100 personnes qui peuvent habiter ici car il y a des colocations. Donc le challenge numéro 1, c'est de faire cohabiter et vivre toutes ces personnes ensemble, car on n'est pas seulement un logement, on est bien plus qu'un logement. Donc il y a effectivement tous les services que l'on peut proposer à côté, la restauration, les espaces collectifs, mais il y a aussi toute cette vie collective et c'est aussi cette vie individuelle où nous, on peut accompagner les jeunes sur certaines thématiques. On dit bien que le FJT, c'est un tremplin vers l'autonomie.
Le premier confinement a pris tout le monde du cours. Donc du coup,
Les premiers jours, on était perdu, comme la plupart des personnes, je pense, en France. Et puis, une semaine après, donc, on a essayé de nous organiser, d'abord par le télétravail. Et puis, un mois après, nous étions contraints de faire du présentiel. Donc, du coup, on ne venait pas sur des amplitudes horaires énormes, mais voilà, on essayait de quand même venir au boulot et puis d'être en contact avec les jeunes pour mieux vivre le confinement. Parce que l'essentiel de notre vie ici, c'est notre vie professionnelle en tout cas, se passe avec les jeunes.
Ce premier confinement, on n'était pas forcément équipés. On avait du gel. Les masques, on en avait quelques-uns, mais c'était des fabriqués maison. Après, je pense que voilà, c'était surtout le gel. On faisait attention aux distances. Mais pour moi, ça n'a pas été forcément un climat anxiogène. Les mots d'ordre, c'était présence, échange, écoute, quoi. Pouvoir échanger avec les résidents, comment ils vivaient ce confinement. Et aussi s'appuyer sur des résidents qui étaient moteurs aussi dans la résidence pour continuer la vie dans notre petite mini-ville. Quoi.
Bah après, le deuxième confinement, c'est mieux. Là, on savait qu'on allait être confiné, donc on s'est organisé. Et en plus, on n'a pas eu de contraintes spéciales de quitter. Nous continuons de travailler comme on a l'habitude de travailler, sauf que voilà, nous respectons aussi les règles sanitaires édictées par le gouvernement. Donc, on fait des animations, mais un nombre vraiment restreint. Et puis, je pense que ces temps-ci, c'est plus notre présence et plus de la médiation que nous faisions et puis de la sensibilisation auprès des jeunes pour le respect des règles sanitaires.
On a même eu des interventions, nous, au niveau de l'Union régionale des habitats jeunes, donc qui est venue au sein de la résidence parler des gestes barrières. On en a aussi longuement parlé avec les résidents, donc c'est des choses que quand même on a acquis. Je pense qu'on le vit différemment. Et on ne veut pas que la vie s'arrête comme au premier. On ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur, comment les résidents y vont, ils sont loin de leur famille. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc là, on a quand même beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Hein. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que ça nous a vraiment permis de garder du lien avec les résidents. Après, il faut qu'on arrive à distinguer ceux qui ont choisi et qui ont envie de rester seuls, ceux qui restent chez eux mais qui ont peur. Voilà, il y a vraiment différentes situations et ça peut vite dériver. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant à ça. Donc, c'est pour ça que là, vraiment, ce deuxième confinement, mon collègue et moi, on est là. Tout le temps, on couvre l'amplitude horaire 10h-21h. Et vraiment, les mots, c'est présence, écoute, échange. Donc, même confinés, on fait nos élections, parce que c'est aussi important. Les élections des représentants des résidents, c'est, voilà, on élit les représentants au niveau de la résidence. Donc, c'est les résidents qui vont être élus et qui vont faire le lien, en fait, entre la résidence, le conseil d'administration. On continue, même si on est confiné, on continue quand même la vie dans la résidence. Et c'est important.
Les habitats jeunes, ce sont des structures qui relient l'offre d'hébergement, mais aussi l'offre de vie collective.
86 personnalités différentes, 86 origines différentes. Donc c'est très riche et je pense que c'est la plus-value des foyers de jeunes travailleurs. Donc effectivement, notre mission première, c'est de proposer du logement. Mais derrière le logement, il y a vraiment tout un aspect culturel et une véritable richesse qui en sort. Et je pense que c'est le plus important.
Pour les animateurs, leurs actions restent donc plus ou moins les mêmes, avec un peu d'adaptation, mais le but est de maintenir le lien entre les résidents. Cependant, nous verrons demain avec la directrice de la résidence, Dominique Jinquière, que l'adaptation n'est pas si simple. Nous avions vu comment s'organisent les animations et événements de la résidence pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, la directrice Dominique Jinquière nous explique les décisions qu'elle a dû prendre pour le premier et le deuxième confinement.
Donc là, le premier confinement, on a fermé. Alors, c'était un peu particulier parce qu'il a fallu quasiment quitter la résidence comme ça. Là, on nous a dit, vous fermez et vous partez. Donc là, c'était un peu particulier. Donc on a tout fermé, autant les parties hébergement que la partie restauration. Au niveau des salariés, j'étais au début la seule à revenir sur la résidence en tant que responsable. Donc j'ai beaucoup collaboré avec les résidents. Donc il y a eu une sorte de vie qui s'est faite à l'intérieur de la résidence pour continuer à gérer le quotidien. Premier confinement. Ce qui a été un peu particulier, c'est une sorte de, comme si c'était de ville morte, quoi, un petit peu. Enfin, ça fait un peu cette sensation-là. Il a fallu trouver déjà tout ce qu'il fallait pour répondre aux gestes barrières. Donc, il y avait donc le gel qu'on n'avait pas, les masques qu'on n'avait pas. Donc, il y a eu tout ça à devoir mettre en place. Le jour où on venait, on était attendu. Hein, c'était important qu'il y ait quelqu'un qui passe et puis qui puisse échanger, voir comment ça se passait. Enfin voilà, un lien. Et sur la deuxième période, je pense que c'est encore plus important parce que, on a vécu tout le premier confinement un peu comme une surprise et puis quelque chose de nouveau. Enfin voilà, c'est la première fois qu'on se retrouvait un peu avec une liberté freinée. Là, on est sur une deuxième phase, donc on sait déjà ce qu'on a vécu et je pense qu'on tolère beaucoup moins bien que la première fois. Et les risques aussi de mal-être, peut-être voire plus au niveau de tout ce qu'on peut appeler la santé mentale, peut être beaucoup plus importante, à mon avis, cette phase, enfin, deuxième phase, que sur la première. Après, on a mis tout un protocole aussi au niveau de l'entretien. Hein. Donc chaque poignée, chaque interrupteur, tout ça s'est nettoyé. Et la partie restauration, donc on a pu la rouvrir entre deux. Donc là aussi, il a fallu mettre tout un protocole en place, très très lourd, hein, avec renforcement des équipes pour servir, etc. Donc c'est très très compliqué. Et là, sur la deuxième période, on est à nouveau fermé. Donc là aussi, c'est un impact important sur le personnel, hein, de la restauration, puisque là, ils sont en chômage partiel. Donc il y a toute une dynamique là qui est un petit peu éteinte, les gens sont chez eux, ils viennent ponctuellement travailler, donc là aussi, là il y a une vigilance aussi à avoir auprès du personnel ou au niveau de la santé mentale, ça peut aussi avoir des impacts. Alors, ils sont là que ponctuellement pour quelques résidents qui mangent là, quoi. On a eu un cas qu'on a isolé et du coup on a tous passé le test. Donc on était quand même plus de 80 plus les salariés, on va dire une bonne dizaine. On a dû avoir en faisant ça que deux autres cas qui étaient asymptomatiques sur l'ensemble. Du coup, quand on a eu le cas qui a été diagnostiqué, donc après on est contacté, etc. avec l'ARS, je veux dire, ça s'est très très bien. Très très bien organisé. J'ai trouvé que c'était, c'est facilitateur en tout cas pour nous. Ça, vu le nombre qu'on était, je pense qu'on peut faire confiance aussi aux résidents. Ils s'adaptent très très bien aussi à la situation telle qu'on la vit, quoi. Peut-être mieux que les autres. Hein. Donc voilà. Non, je trouve que c'est ça. Il faut laisser aussi la jeunesse, vivre ce confinement-là. À leur façon, et puis trouver, à mon avis, c'est eux qui doivent trouver aussi des solutions, parce que on ne sait pas qu'elle sera demain, est-ce qu'on aura d'autres choses comme ça qui se présenteront, il va falloir vivre avec, donc il faut trouver des solutions en tout cas.
Ce deuxième confinement demande donc beaucoup de protocoles et d'adaptations pour les équipes de la résidence Habitat Jeune de Laval. On retrouvera d'ailleurs demain le service entretien qui nous expliquera comment leurs journées ont complètement changé.
Stay here so long. I can't feel time. This room is on fire. My heart's beating louder.
Aujourd'hui, nous écoutons Jocelyne et Angélique, toutes deux agents d'entretien.
Je fais le ménage le matin, dans les circulations, dans les communs, les sanitaires, plein de choses comme ça. Et l'après-midi, la cafétéria. C'est-à-dire que je sers le café, les boissons chaudes, les boissons froides pour les gens qui viennent manger au restaurant. Là, c'est terminé, donc ça n'a pas repris depuis le premier confinement. Donc maintenant, c'est ménage toute la journée. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a changé. Pendant le premier confinement, on a été confinés au départ. On pensait que j'étais personne à risque suite à des problèmes de santé. En fait, je n'étais pas personne à risque. Donc j'ai recommencé à travailler très peu de temps, 2 fois 3 heures après, à la date du déconfinement et ensuite à mi-temps. Et ensuite, on a repris à temps complet. Par rapport au deuxième confinement, où là, au deuxième confinement, on a toujours travaillé. Avant, on désinfectait aussi que les portes des toilettes, les choses comme ça, les interrupteurs au niveau des toilettes, des sanitaires, les zones qui craignent le plus. Maintenant, c'est partout. La cafétéria, il faut faire régulièrement tous les meubles, toutes les chaises, les tables, les portes, les couloirs, c'est pareil. Il faut faire régulièrement les portes des logements. J'ai récupéré du temps qui n'est plus du temps de cafétéria. J'ai travaillé pas mal en cuisine, en remplacement de personnes qui étaient en arrêt. Moi, mon rôle est de remplir les pichets d'eau, que les gens les prennent. Ils ne se servent pas de la fontaine. Et après, nettoyer les tables aussitôt qu'ils partaient. Donc, il fallait courir dans le restaurant, revenir à la fontaine. Au dernier confinement, là, en ce moment, le restaurant étant fermé, cette mission-là s'arrête automatiquement. Donc, on en profite pour faire du gros nettoyage. Donc, on passe énormément les machines. Ben, ça fait beaucoup de manutention, beaucoup de charges dans les bras, de vibrations, des choses comme ça, dans le dos aussi. On porte beaucoup.
Premier confinement, moi, j'ai commencé en premier. Et même pas à mi-temps, j'ai travaillé 2 jours par semaine et en 3 heures. Quoi. C'était très peu, c'était vraiment pour faire le quotidien rapide. Normalement, il y a des casiers dans chaque bâtiment, le numéro de logement. La personne doit descendre son linge sale, prendre le propre et mettre le sale à la place. Et depuis qu'il y a le Covid, chaque résident met son sac devant le logement et nous, on vient récupérer le sale et on met le propre dedans. Bah, le deuxième confinement, franchement, bah, c'est comme si on n'était pas confiné parce qu'on est à temps complet, on vient au boulot comme normalement. Le gros changement, c'est que bah, l'équipe de cuisine n'est pas là, vu que la restauration est fermée. C'est vraiment le minimum, donc c'est vraiment un grand changement par rapport à ça. Bah, là, en fait, on aurait bien réclamé un petit peu de repos. Même moi aussi, je suis venue en cuisine et en tant que plongeuse. Et du coup, bah, ça nous a bien usé tout le corps, quoi.
Les conditions de travail ne sont donc plus les mêmes. Il y a la fatigue et des collègues pour la plupart en chômage partiel. Nous entendrons demain comment s'organise la restauration qui reste ouverte seulement pour les résidents, mais qui a beaucoup moins de moyens à disposition.
This room is on fire, my heart's speaking louder.
On continue notre tour clair aujourd'hui dans les cuisines, je crois.
Et oui, hier nous avions eu le service entretien qui nous décrivait les nouvelles journées de travail avec par exemple leur participation en cuisine. Et du coup aujourd'hui nous avons justement le service de restauration. Ce service a nettement diminué puisqu'il est ouvert seulement aux résidents et non plus aux adhérents extérieurs de l'association. Justement, combien y a-t-il de couverts aujourd'hui ?
Entre 15 et 20. Alors que hors confinement, un service classique, quand on a nos clients, nos usagers, on est entre 200, 300. Hors confinement, oui, vous avez petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Un petit déjeuner, il n'y a plus. On fait plus le système de plateau. Comme tous les restaurants, que ce soit tradi ou gastro, on a été stoppé, on avait obligation de fermer. Chose qu'on a faite, donc on n'a pas travaillé pendant à peu près 3 mois. Le deuxième confinement est beaucoup moins strict. Bon, on a l'impression maintenant, au jour d'aujourd'hui, après le discours qu'il y a eu hier, que ça touche vraiment surtout les restaurateurs. Là, c'est vrai qu'il y a la chance, les commerces vont rouvrir prochainement, mais de nouveau, les restaurateurs sont encore touchés, quoi. Et ça, jusqu'au mois de janvier minimum. Si c'est pour des plateaux repas, automatiquement, oui, on fait rentrer beaucoup moins de marchandises par rapport à une semaine type. Ça, c'est sûr à 100%. On a des stocks. De toute façon, en plus, on a été prévenu l'avant-veille pour la fermeture, pour le deuxième confinement. Donc, automatiquement, il restait des stocks. Donc sur les 3 résidences qu'on est, on a regroupé nos stocks, on jongle avec ça et puis on fait des petites commandes à côté pour compléter. Normalement une journée type, là actuellement on est 2. Normalement si on est vraiment au complet, on est 7-8 au moins. Ouais, on est 4 fois moins au niveau de l'équipe. Il y a des collègues qu'on revoit pas, qu'on va peut-être pas revoir avant les réouvertures. Mais bon, c'est compliqué pour tous les restaurants.
Cependant, nous verrons demain avec les résidents que ce confinement a quand même eu du bon. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 5 résidents. Ils nous expliquent comment s'est passé le premier et deuxième confinement.
Je m'appelle Alexis Mielkarek, j'ai 18 ans, j'étudie à l'ESTACA, deuxième année, à Laval.
Je m'appelle Dortje Koldewey, je suis néerlandaise et je suis ici à Laval pour une année. Je suis volontaire européen pour la Cour européenne de solidarité et je travaille pour la Maison de l'Europe.
Je suis Edgar Payarounet, j'ai 21 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ESTACA en quatrième année.
Je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, je suis là depuis un an à la résidence. Je suis auxiliaire de puériculture juste à côté.
Je m'appelle Valeria Martinez et je viens de la Colombie.
J'ai passé mon premier confinement chez mes parents. J'ai plus d'avantages dans le second. Je ne suis pas seul pour travailler. J'ai un autre collègue de l'école. Du coup, on s'aide, on suit les cours ensemble, on travaille, c'est beaucoup plus simple. Ça permet aussi de voir du monde autre que ma famille, ce que je trouve bien pour un étudiant. C'est une vraie motivation, c'est plus simple, on comprend mieux. Il n'y a que des avantages.
Je fais le télétravail pendant la semaine, mais il y a quand même des animations qu'on fait. Donc ça, c'est bien, c'est une petite sortie de la maison. Je voulais retourner chez moi, aux Pays-Bas, mais en fait, j'ai choisi de rester ici parce que c'est très bien d'être ici avec des autres gens, des étudiants, et oui, c'est bien de pouvoir améliorer mon français.
Le confinement nous a beaucoup rapprochés. On avait coutume de juste de se voir le soir pour manger ensemble au self. On jouait au billard, on faisait un baby-foot, et ensuite chacun rentrait chez soi. Qu'avec le confinement, on passait quasiment l'intégralité de la journée ensemble, juste chacun rentre chez soi pour dormir. Que le personnel soit toujours là, donc les permanents, les gens de l'accueil, les femmes de ménage, ça change du premier confinement parce que dès qu'on veut faire des lessives, on peut aller directement vers eux pour acheter les jetons et payer. Alors qu'avant, il fallait toujours se tourner vers un résident, qui était le représentant des résidents. Et ensuite, ils notaient notre nom, donc c'est un carnet, puis on payait déduit du loyer.
Et du coup, pendant le deuxième confinement, moi j'ai travaillé, je travaille tout le temps, donc je fais les horaires habituels. On essaye d'être là pour eux. Les étudiants, c'est vrai qu'eux ne vont pas forcément sortir, tout ça. On sort avec eux pour aller au sport, faire les courses, tout ça, on les aide aussi. Parce que moi, je peux aller au travail, je suis pas confinée, du coup je sors quand même 9h dans ma journée. Je pense que le Covid, il a permis d'apprendre à connaître chaque personne différemment. Parce que du coup, on était tous loin de nos familles, on était tous différents et ça permet de voir différentes personnes et de se sentir plus à l'aise après pour le reste. Enfin, quand il y aura plus le Covid, on se connaît super bien maintenant et on a créé une super relation entre nous, je pense.
Avant, quand j'ai travaillé au lycée et au collège, j'ai mangé presque tout le temps dans la cantine. Donc, j'ai pas cuisiné vraiment des choses que j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Mais pendant les confinements, j'ai commencé à regarder des vidéos et des programmes. J'ai commencé à travailler un peu la pâtisserie française. Petit à petit, j'ai commencé à apprécier plus les choses comme ça. Et maintenant, j'ai pu dire que j'ai presque une étoile dans la pâtisserie française. Ici, dans la résidence, je crois que vraiment les personnes qui ont travaillé ici pendant les confinements et après, vraiment, ils ont fait des choses importantes. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai connu et mieux les personnes avec qui j'ai partagé un espace.
Ces deux confinements ont donc permis aux résidents de mieux se connaître autour d'activités proposées par les animateurs, par exemple, mais aussi par eux-mêmes. Une occasion pour ces jeunes de grandir grâce à ce confinement. Finalement, il y aura quand même eu du bon.
My heart's speaking loud.